Cours de théologie naturelle par le père Marie-Dominique Philippe, le 11 mai de l'an 2001 à Saint-Jeaudard.
Nous continuons le cours d'hier. La théologie naturelle l'emporte, voyez, sur la métaphysique, parce que la théologie naturelle, c'est sagesse. La métaphysique est science. Elle analyse, tandis que la sagesse, elle contemple et elle juge, elle estime. Juger dans le sens philosophique, hein, c'est ce que le droit a pris la place de la philosophie. Alors juger quelqu'un, c'est pas ça. Juger, c'est discerner. Parce que les confusions viennent toujours d'un manque de discernement. On fait un amalgame. Alors on dit ça aujourd'hui, on fait un amalgame. Mais le discernement est justement pour essayer de saisir les raisons formelles avec la plus grande acuité. Et ces raisons formelles ont la distinction est où de raison ou réel, la distinction de l'être et de la vie. Et d'une distinction réelle. Et le jugement d'existence, le jugement de sagesse, me permet, je crois bien, à faire comme première distinction cette distinction-là. Vous voyez, l'ordre de sagesse, on n'est pas très habitué, hein. On peut, au point de vue scientifique, avoir des certitudes, je dis bien des certitudes, très nettes. La saisie de la substance et la saisie de l'acte, on peut en être certain, une certitude métaphysique absolue. Celui qui ne fait pas la distinction de substance et acte, ne fait pas la distinction entre la cause formelle et la cause finale. C'est une distinction que nous ferons, que nous verrons et que nous justifierons au niveau sagesse. Le jugement de sagesse est plus évident et moins certain pour nous. Parce que nous partons de la création. Et la création, on en a une évidence, mais c'est toujours par l'analogie que nous avons découvert Dieu. Nous ne découvrons pas Dieu dans un raisonnement mathématique. Nous découvrons Dieu dans un raisonnement une démonstration analogique, synthétique analogique. Et la création, forcément, est dans le prolongement de cette distinction. Et le jugement de sagesse implique ces deux affirmations, l'existence de Dieu et l'existence de la création. Troisièmement, le jugement de sagesse. Et ce jugement de sagesse va de fait, c'est ce que je voudrais qu'on voit ensemble, recouvrir toute la philosophie. Toute la philosophie peut être et doit être vue dans un jugement de sagesse. Et c'est par là que nous rattrapons tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans le néoplatonisme. on rattrape dans un jugement de sagesse tout ce qui est peu intéressant. Bon, pourquoi sommes-nous tentés d'être platonistes? On est tous tentés à ça. Le père Daud disait, à 45 ans, la plupart redeviennent néoplatoniciens. Ils étaient aristotéliciens, dans la vigueur de l'esprit. À 45 ans, la vigueur de l'esprit demeure encore, mais on est moins net. Alors on redevient néoplatonicien. Et c'est vrai, le néoplatonisme a quand même en nous, hein, faut bien se le dire, des complicités très fortes. Très fortes. Hein. C'est rude d'être aristotélicien. C'est rude. C'est le primat de l'être sur l'un. Le primat du jugement qui s'appuie sur la réalité existante. Et cette réalité existante s'appuie sur la création. Dieu crée des êtres nouveaux. C'est la première chose. Il crée des êtres vivants. Il crée des êtres intelligents, des êtres aimants. Et donc, il y a un jugement d'être qui porte sur l'être, qui doit toujours exister. Le jour où on le quitte, on tombe immédiatement dans l'imaginaire, et donc dans la passion. Alors, vu ce qu'on avait vu hier, hein, sur ce point de vue de l'être et de la vie, il y a une petite question, je la lis tout de suite. Hein. Quelle est la différence, s'il y en a une, entre la distinction entre l'être et la vie, faite dans un jugement de sagesse, et celle découverte à partir du jugement d'existence? La différence, c'est qu'elle provient d'un jugement de sagesse. Quelle différence y a-t-il entre le jugement scientifique et le jugement de sagesse? C'est une très bonne question. Le jugement de découverte scientifique repose sur quoi? La distinction des causalités. Ce que vous atteignez dans la ligne de la causalité formelle. Ce que vous atteignez dans la ligne de la causalité finale. L'induction, c'est la recherche des causes, des principes. Et elle se fait par une analyse. C'est la grande découverte d'Aristote, hein, au point de vue de l'intelligence. Bon, on verra comment il faut la comprendre au point de vue jugement de sagesse. Donc, vous voyez, le jugement de science repose sur la recherche des causes propres. En science, qui dépend des mathématiques, ça se fait dans la découverte des lois. La loi est une découverte scientifique. Quand le savant découvre une relation nécessaire, c'est ça une loi, entre l'antécédent et le conséquent, il est content. Et lorsqu'il s'agit des réalités sensibles, cette découverte n'est jamais absolue. Les lois biologiques, les lois physiques ne sont jamais absolues. C'est le positivisme qui dit qu'elles sont absolues. Elles ne peuvent pas être absolues parce que la matière est impliquée et on n'a pas une connaissance exhaustive de la matière. Alors, on ne peut jamais, on dit, la plupart du temps c'est comme ça. La plupart du temps, ut in pluribus. Il n'y a qu'en métaphysique où j'atteins des principes où la matière n'est plus l'être spirituel. Là, vous n'avez plus de loi. Vous avez la métaphysique qui atteint les principes. Et le jugement de sagesse se fait dans la lumière du Créateur, de la sagesse du Créateur. Oui, à la place de saisir les causes propres, les lois, distinguez bien loi, cause propre, cause ultime. Il y a une montée. Quand vous avez découvert des lois, vous avez découvert des relations nécessaires. Des relations nécessaires. Mais vous restez au niveau relation. Quand vous saisissez au point de vue philosophique des principes propres, vous y des principes au-delà de la relation. Et ces principes propres, vous les avez saisis par l'induction. Et quand vous êtes dans un jugement de sagesse, vous êtes en présence de la cause première, ultime, alpha et oméga, Dieu. Le jugement de sagesse se prend à partir de la sagesse de Dieu. Dans la sagesse de Dieu, autant que possible. Alors vous comprenez bien, c'est une connaissance analogique. Elle est très évidente, elle est très forte. L'évidence que j'ai quand je découvre l'existence de Dieu, c'est une évidence plus forte que tout le reste. C'est pour ça que l'Écriture dit « incipiens ». Dixit in corde suo non est Deus. C'est l'insensé qui ose dire dans son cœur je n'ai pas. Mais c'est insensé de dire ça. On n'ose pas le dire, hein, on n'ose pas dire ça. On est apologète, alors on est très doux. On caresse celui qui s'oppose. Aujourd'hui, on n'oserait pas dire ça. Vous voyez ça au Parlement. Quelqu'un se lève. Incipiens. Dixit in cordes vos non est Deus. Dire que Dieu n'existe pas, mais c'est un insensé. Alors, quand vous mettez un insensé à la tête d'un gouvernement, on peut avoir toutes les folies. Parce que l'insensé veut montrer qu'il n'est pas insensé. Toujours. Les insensés veulent prouver qu'ils ne sont pas insensés. Et qu'ils sont très sages. Ils ne le sont pas. Vous voyez, c'est très important que le jugement de sagesse, c'est le dépassement de l'insensé. Dieu existe. Et Dieu est créateur. Et dans la lumière de la création, vous jugez comme Dieu juge. C'est extraordinaire le jugement de sagesse. C'est comme Dieu juge. Alors vous avez une analogie de similitude. Comme Dieu juge. Alors Dieu a discerné comme créateur ce que nous sommes. Le regard de Dieu sur la créature, c'est ça que nous cherchons dans un jugement de sagesse. C'est pour ça que c'est si grand. Et le jugement de sagesse devrait, vous voyez, toujours se réaliser comme quelque chose de sacré. Parce que ça touche Dieu. C'est en relation avec Dieu. Le jugement de sagesse a quelque chose d'unique. Plus personne n'en parle au point de vue philosophique, il faut être sûr. Même à Fribourg, c'était difficile d'en parler. Mais les gens disent, oh, oui, c'est de la mystique. Alors quand ils disent ça, on voit ce qu'ils veulent dire. C'est quelque chose de caché, c'est pas pour nous. Non, non, mon intelligence, elle est fille de Dieu. Et elle est fille de Dieu quand justement, elle arrive à poser le jugement de sagesse. Et celui qui n'a jamais découvert l'existence de Dieu ne comprend absolument pas le jugement de sagesse. Il y a un obstacle. Il y a un brouillard tel qu'il ne voit pas. Mais, alors, on a des petites analogies, des métaphoriques. Quand on voit le ciel très couvert, un nuage très fort, et puis qu'on s'élève en avion au-dessus de ça. Oui, alors le jugement de sagesse, on s'est élevé au-dessus du brouillard. Et c'est Dieu, et on rejoint Dieu, le Créateur, et on regarde. Première vision de la sagesse de Dieu sur la créature, distinction de l'être et de la vie. Et pour nous, voyez, du fait qu'on a été se promener dans la Lune, c'est intéressant philosophiquement, c'est très intéressant. Ils ont cherché s'il y avait la vie. C'était la grande recherche. Ici, vous avez beau regarder des choses qui ont l'air de ne pas vivre, il y a toujours la vie. On a une matière vivante. Une matière qui cache la vie, mais elle est vivante, cette matière. Mon corps est une matière vivante, vivante par mon âme. Mais c'est une matière vivante. Alors, le cadavre, ah oui. Mais le cadavre, il continue de vivre. La preuve, c'est ce qui corrompt. Il faut un miracle de Dieu pour que le cadavre ne se corrompt pas. Parce que la vie, elle est présente dans le corps. Bien sûr. Tandis qu'en allant dans la Lune, je n'ai pas fait cette expérience. Mais certains de mes frères dans l'humanité sont des cosmonautes. Et j'écoute ce qu'ils disent. Ça m'intéresse de regarder la Terre quand on est dans la Lune. Ça, tout le monde s'intéresse. Hein. Mais c'est beaucoup plus intéressant de regarder la Terre dans un jugement de sagesse. Regarder la Terre de la Lune, c'est encore humain, ça. C'est encore humain. Le cosmonaute est encore un être humain. Il doit faire attention, il doit emporter tout ce qu'il faut pour se garantir, hein, parce qu'il serait vite, s'il sortait de ça, la Lune le mettrait dans un état de glace éternelle. Hein. Ça n'irait pas très bien. Mais il reste un vivant, curieux, voir si la vie est là. Pas de vie. Je ne peux pas faire la même constatation pour le Soleil. Hein. C'est plus facile de se descendre, de se défendre de la glace que du feu. Et ça, tous les anciens l'ont dit. Le feu est l'élément supérieur. Terre, l'eau, l'air, le feu. Ah. Et le soleil, maximé. Alors, la chaleur suprême. Là, vous ne pouvez pas vous approcher de trop. Il faudrait, je ne sais pas, être vêtu, je ne sais pas comment. Et le froid de la Lune, ça, c'est. On peut. Peut-être qu'on ne peut pas aller trop loin jusqu'où. On peut aller pour se garantir du froid, ça c'est autre chose. Mais le froid n'est pas maximé, il est relatif. La Lune est relative au Soleil. Hein. Toute relative au Soleil. Mais on a une expérience nouvelle, pas de vie. Très, très curieux, ça. Et c'est très intéressant. La vision lunaire, c'est que la vie est absente. La vision à partir de la sagesse de Dieu, ah, première distinction, être et vie. Nous pouvons la faire intellectuellement, nous, la distinction entre l'être et la vie. Et nous la faisons philosophiquement, dans la recherche philosophique. À quel moment, quand on arrive à dire que la matière est pure puissance, ah, mais il faut une induction. Vous n'avez pas l'expérience de la pure puissance. Vous n'avez pas l'expérience de la distinction. Vous avez une distinction entre un être vivant et un être mort. Mais l'être mort est encore de notre monde. Et notre monde est un monde dans lequel la matière est vivante. Elle n'est pas séparée. C'est l'intelligence. Et l'intelligence dit ça à partir de la génération. La pure puissance, c'est à partir de la génération. Mais la génération et la procréation, vous comprenez, on n'en a pas l'expérience de ce passage de l'être vivant à partir d'un être non vivant. Ça reste caché. Complètement caché. Pourquoi pas ? Vous voyez les effets, oui, avant et après, c'est très bien, mais voir ce passage d'un être non vivant qui vient vivant, Alors vous dites, oui, il y a l'œuf, oui, l'œuf, et puis il y a la conception, oui, il y a la conception, mais ce passage, vous le posez parce qu'il y a non-vivant et vivant, et vous n'avez pas l'expérience. Donc vous n'avez pas l'expérience du non-vivant, de la pure puissance. Vous la posez. Je suis tout à fait d'accord que vous posez, en faisant la philosophie de la nature, vous faites la distinction entre l'être matériel, purement matériel, et l'être vivant. Vous en faites l'expérience à partir de la génération. Le vent se meut. Alors qu'avant, celui qui n'est pas vivant, il est pure puissance. Pure puissance. Il est en puissance du mouvement. Et si vous allez jusqu'au bout, vous devez dire que la génération fait un passage. Avant, il n'y a pas le vivant. Après, il y a un vivant. Donc, il y a conception d'un vivant. Naissance d'un vivant. Et la vie première, c'est la vie végétative. Et la vie végétative, au point de départ, c'est celui qui est conçu. Vous avez avant et après. Et vous inférez ça. Vous n'avez pas l'expérience. Hein. Personne d'entre nous n'a l'expérience du non-vivant pur. Vous voyez, c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on parlait des générations spontanées. Et la génération spontanée, c'était tout simplement lorsque on a un étang, il y a de la boue, il y a la chaleur du soleil, puis tout d'un coup, un petit animal qui apparaît. Quelque chose est vivant. Alors, il y a génération spontanée. Il n'y a pas de génération spontanée. Hein, parce qu'on a une matière qui cache des semences qu'on n'a pas vues. Mais le vivant est toujours d'un autre vivant, provient toujours d'un premier vivant. Alors, le premier vivant a dû venir directement de Dieu. Vous voyez, le passage du non-vivant au vivant. L'homme est incapable de faire ça. Incapable. Vous constatez. C'est pour ça que dans l'évolution, dire qu'on passe du non-vivant au vivant, mais c'est parce qu'on ne sait pas, on dit ça. Dans un jugement de sagesse, je vois que le propre de la créature, c'est que son être est distinct de sa vie. Donc, vous voyez, ce jugement de sagesse remplace l'induction. Si je vois la différence. Dans l'induction, l'expérience que j'ai faite, avant et après, il y a un saut. Alors, je l'explique de diverses façons, hein. Et je constate. Et je constate que, pour moi, saisir le non-vivant, il faut aller dans la lune. Ici, j'ai toujours l'expérience du vivant. Toujours. Et est caché, mais c'est vivant. C'est un monde du vivant, la terre. Et jusque dans sa matière, jusque dans la cause matérielle, c'est un monde du vivant. Et ça se constate de plus en plus que le monde est de plus en plus un monde du vivant. Et par l'homme risque de devenir un monde purement artificiel. Ça commence. Hein. L'artificiel au point de départ est toujours dépendant de la nature. Mais la conquête... L'homme sur la nature est d'une certaine manière infini. Il peut conquérir de plus en plus la matière. Je conquiers la matière. La matière me donne cette limitation du lieu et du temps. Les deux grandes limites, hein. Qui proviennent de la matière. Je suis dépendant du lieu. Je suis ici, et c'est très ennuyeux de ne pas être en même temps en Amérique. Si on vous demandait le choix, est-ce que vous aimeriez d'être en même temps ici et être en même temps en Amérique, vous choisiriez tous d'être en même temps en Amérique, ou en même temps au Mexique, ou en même temps au Brésil, ou en même temps aux Pays-Bas. Vous choisirez tout de suite d'être dans deux lieux différents. Ben, c'est sympathique, hein ? Non, non. Impossibilité. Alors, vous essayez artificiellement, techniquement, de limiter le plus possible les distances. Avant, faire le tour de la Terre, ça mettait assez longtemps. On savait que ça... Maintenant, ça peut se faire relativement vite, hein. Mais c'est artificiel, hein. La preuve, c'est artificielle, c'est que l'homme peut arrêter ça, la grève. Alors l'avion est arrêté. Et c'est l'homme qui a fait ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu l'auteur de la grève. Non. Parce que la grève a une immense conséquence. Quand on pense, hein. Pour nous, ça a des conséquences. On le sent passer. Mais la grève est possible. Tout ça était artificiel, donc était dans les mains des hommes. Le pouvoir de l'homme est arrivé à ça, à la fois de supprimer et en même temps, selon son bon plaisir, conditionné par des tas de trucs, mais selon son bon plaisir, il empêche ça. Conquête de l'espace, du lieu, conquête du temps. Et c'est vrai, mais ça reste toujours des limites dans l'ordre de l'être, pas dans l'ordre de la vie. Dans la vie, c'est l'intelligence qui veut conquérir de plus en plus. Et cependant, il y a toujours ces limites qui sont ces limites de l'être. Le lieu, c'est pas une limite de la vie, ça. Le lieu, le temps. Alors, c'est très intéressant, parce qu'on assiste, hein. On assiste. Et c'est une expérience très propre à l'homme du XXe siècle, à l'homme du troisième millénaire, d'assister à cette conquête de l'espace, cette conquête du temps. Et cependant, l'homme peut, quand il le veut, arrêter cette conquête. Cette conquête ne nous appartient pas. Elle appartient à des gens tout puissants, à des gens très puissants, c'est bon, pas tout puissants, très puissants. Et on a bâti sa journée en fonction de ses conquêtes. Et puis, sans nous demander la permission, tout ce qu'on avait bâti jusqu'au sacristain, grand-messe d'un cardinal, non, et on subit. Alors quand c'est uniquement la sacristie, ça va encore, mais quand c'est autre chose que la sacristie, quand il s'agit d'un médecin très, très important pour venir sauver quelqu'un, dernier moment, sûrement, pour certaines personnes, la grève décidée par les hommes peut avoir des conséquences terribles. Vous voyez, là, vous voyez la distinction entre l'être et la vie. Et vous voyez que la vie, quand elle est quand l'homme veut la conquérir, et il essaie, cependant, l'être, à certains moments, reprend du poil de la bête. Entre les Philippines et ici, entre l'Allemagne et ici, on ne peut pas faire ça par soi-même. Vous n'avez pas donné au cardinal des petites ailes, dépasser par lui-même, non ? Non. La distance reste l'être et la vie. Ces distinctions palpables, hein. On est tout le temps vers ces distinctions-là. Et on doit y réfléchir. Parce que très facilement, on tombe dans l'ontologisme. L'ontologie, c'est confondre l'être et la vie. Et quelqu'un d'aussi génial que Hegel confond l'être et la vie. Alors quand il est en face d'une décision comme celle-là, les hommes arrêtent. Chômage, une décision d'un syndicat, chômage. C'est bien, distinction de l'être et de la vie. Il fait ça au point de vue de la vie, au point de vue de la vie, tout est changé. Ça a une immense répercussion. Et plus le monde est organisé techniquement, plus la panne, le chômage, a d'immenses conséquences. Et l'être reprend ses droits. Les droits de l'être, c'est qu'il y a une distance entre l'Allemagne, Francfort et Lyon, une distinction, distance. Faites ça à pied, sans technique. Et à pied, c'est encore la vie. Hein. Et si vous êtes paralysé, hein, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes obligé d'accepter, oui, distance. L'être humain est limité. Il est limité quant au lieu. Il est limité quant au temps. Donc, vous voyez la distinction. Parce qu'on en fait l'expérience tout le temps. Si on réfléchit. On a fait les distinctions tout le temps. Quand je me suis élevé, que j'ai été plus que cosmonaute, je suis un sage. Un sage, il a le droit d'être un fils de Dieu et de regarder comme son père regarde. C'est ça la sagesse. Voyez, c'est pour ça que quand on méprise la sagesse, il y a un mépris de Dieu. Il y a le mépris du Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est sage. Il peut regarder dans le regard de Dieu, dans le regard du Créateur. Et tout se remet dans l'ordre. Le propre du sage, c'est d'ordonner. Le premier élément de l'ordre, c'est la distinction pour la créature entre l'être et la vie. Et cette distinction peut devenir monstrueuse, oui, peut devenir monstrueuse quand la vie s'étend par la technique. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus l'être, c'est le point de vue intentionnel qui s'étend, indépendamment de l'être. On a une technique tellement perfectionnée, tellement extraordinaire, qu'on peut communiquer avec ceux qui sont très loin immédiatement. Et d'une certaine manière, maintenant, avoir presque un dialogue purement intentionnel par les techniques, purement artificielles. Vous voyez, le monde de l'art, de la technique, est devenu tellement énorme qu'il pense tenir par lui-même. Or, il ne tient pas par lui-même. Je ne peux pas créer des substances. Je ne peux pas réaliser des substances avec ma technique, avec mon art. Je réalise des relations. Parce que la relation peut être une relation de raison. Est une vraie relation. Et tout ce que je fais, c'est d'établir des relations. Et permettre alors, par le fait même, de faire des conquêtes sur l'espace et le temps. C'est merveilleux au point de vue technique, au point de vue artificiel, au point de vue scientifique. Mais attention, c'est pas le réel. Et si on bâtit le réel là-dessus, alors crac. Vous voyez, c'est pour ça que c'est capital. Et je crois vraiment que c'est la première distinction de sagesse, l'être et la vie. Alors, je relis. Quelle est la différence, s'il y en a une, entre la distinction de l'être et de la vie faite dans un jugement de sagesse, donc dans la lumière du Créateur, et celle découverte à partir du jugement d'existence, mon expérience. Alors, cette distinction de l'être et de la vie, vous la faites en philosophie du vivant, vous essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que le vivant. Celui qui se meut. Les progrès de la science n'ont pas changé cette distinction première, tout à fait fondamentale. Le vivant se meut. Il se nourrit, il dort, il se repose, il travaille, il se meut. Il a une autonomie dans son être. Et il veut que cette autonomie soit toujours plus grande. Elle augmente par la technique. Mais la technique n'est pas substantielle. Ce sont des relations. Et uniquement des relations. C'est donc très fragile. La relation est l'être le plus débile, dit le vieil Aristote. Et donc on construit un monde très débile. Et ce monde très débile est tellement séduisant que très facilement l'homme le choisit plutôt que l'être réel. Et c'est ça le danger. On risque d'être gouverné par des hommes qui ne voient que l'être débile et ne voient absolument plus la personne humaine, la substance. On ne voit plus que la relation. Alors, la différence, hein, l'expérience me donne la différence entre l'être et la vie. De l'autre côté, c'est dans la vision de Dieu, du Créateur. Donc, ça va beaucoup plus loin, hein, en profondeur. Mon père, hier, vous nous disiez que la distinction de l'être et de la vie et le premier jugement de sagesse, je le redis. Mais déjà dans l'expérience, nous pouvons faire une telle distinction. En quoi est-elle donc un jugement de sagesse? J'espère que vous voyez maintenant. C'est la même réalité, mais vue dans deux lumières différentes. La lumière du matin et la lumière du soir. Ça, c'était la distinction qu'on prenait au Moyen-Âge et que saint Thomas encore prend. La lumière du matin, l'expérience. La lumière du soir, la création. Alors, au point de vue connaissance, on doit toujours faire la distinction entre ce qui est connu et la lumière sous laquelle on connaît. Ce qui est connu, c'est la distinction de l'être et de la vie. Je peux la voir dans deux lumières différentes. La lumière de l'expérience et la lumière de sagesse. Et tout ce que je vais dire dans la lumière de sagesse, je l'ai déjà dite dans la lumière d'expérience. C'est pour ça que je vous ai dit, je reprends toute ma philosophie, donc toutes les distinctions que j'ai faites en philosophie, dans la lumière de sagesse. Et dans cette lumière de sagesse, ça confirme, ça augmente la certitude, l'évidence que j'ai eue déjà au point de vue philosophique, ça confirme que ce que j'ai vu, distinction de l'être et de la vie, est une distinction capitale. Elle est première. Et si je ne la fais pas, je tombe dans ce qu'on appelle au point de vue philosophique l'ontologisme. Et j'ai un exemple merveilleux d'ontologisme avec la philosophie hégélienne, avec la philosophie de Platon. C'est tout le courant platonicien qui dégringole quand je dis distinction entre l'être et la vie.